RFI 7h30, à Paris 6h30, à Ouagadougou et en temps universel.
RFI Matin.
Nemo en Peace, un nouveau journal. Au Burkina Faso, Amnesty International salue une initiative du procureur du tribunal de grande instance de la capitale.
Oui, mais l'ONG craint un scénario similaire à plusieurs enquêtes ouvertes récemment qui n'ont mené à aucune sanction. Cette fois, l'affaire est en lien avec des messages de haine envers les populations peules du pays. Le gouvernement guinéen encourage les partis politiques suspendus à prendre les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec la loi. Vous entendrez le porte-parole de l'exécutif. Neuf soutien malien de l'imam Diko devant la cour cette semaine. Le procureur demande la relaxe pour 5 d'entre eux. Un an de prison avec sursis pour les 4 autres. Ils avaient été arrêtés le jour du retour annoncé de l'imam. Finalement avorté, le délibéré est prévu le jeudi 27 mars. Et puis en Tunisie, 5 premiers ministres en 4 ans. Un observateur évoque un régime hyper présidentiel qui repose sur la théorie du complot et la recherche de boucs émissaires. Le tout mené par le chef de l'État Kais Saied. On vous en parlait déjà hier. Au Burkina Faso, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou a annoncé l'ouverture d'une enquête en lien avec des messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux, parfois des menaces et des appels au meurtre, notamment contre la population peule du pays. Alors qu'il y a une dizaine de jours, une attaque des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, a fait des dizaines de victimes peules dans la région de Solenzo, selon l'ONG Human Rights Watch. Ce matin, l'ONG Amnesty International salue l'initiative du procureur, mais rappelle que jamais ces récentes promesses d'enquête n'ont été suivies de sanctions. Ousmane Diallo est chercheur principal pour le Sahel.
C'est ça le contexte de ce communiqué du procureur-là, que nous saluons, mais nous notons aussi que ce communiqué n'est qu'une répétition de ce qui a été fait au cours des 4 dernières années. Ce n'est pas la première fois qu'un procureur du Faso dénonce des propos faisant l'apologie des appels ethniques, souvent en lien avec la communauté peul, donc qui est stigmatisée à cause de l'insurrection djihadiste. Mais aucune suite ne vient, en fait, après ces communiqués-là. Donc, il y a des dénonciations, des rappels de la loi, mais il n'y a pas de sanctions, malheureusement. Et ce qu'on peut noter durant les 4 dernières années, c'est que cette impunité-là, non seulement qui se traduit dans les propos apologétiques et appelant presque au nettoyage ethnique, et aussi dans la violence et dans la stigmatisation et dans la normalisation de la violence contre les communautés peules qui vivent dans les zones d'intervention militaire comme dans la boucle du Mont-Houn, facilite la perpétuation de ces violences-là. Donc pour qu'il y ait vraiment un effet, il faut qu'il y ait des sanctions contre ces auteurs de posts Facebook, mais aussi ces propos qui sont tenus dans les radios en langue locale qui font l'apologie de la haine ethnique.
Ousmane Diallo, chercheur principal pour le Sahel à Amnesty International, il était avec Frédéric Gara. Au Niger, le gouvernement de transition annonce un nouveau massacre de civils. Selon un communiqué lu à la télévision d'État Télé-Sahel, ce vendredi, au moins 44 civils ont été tués dans une attaque djihadiste contre un village dans la zone des trois frontières dans le sud-ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur accuse des membres de l'État islamique d'avoir encerclé une mosquée et massacré les fidèles en pleine prière du début d'après-midi, puis d'avoir incendié le marché et des habitations. Il y a aussi 13 blessés. Un deuil de 72 heures débute ce samedi.
En Guinée, le gouvernement a annoncé il y a une dizaine de jours la suspension de plusieurs partis politiques pour 90 jours.
Et parmi eux, deux poids lourds, le RPG d'Alpha Condé, l'ancien président de 2010 à 2021, et l'UFR de l'ancien premier ministre Sidya Touré. De son côté, l'UFDG de Seloud Alain Diallo est mise en observation pour 45 jours, le temps, dit-on, de se conformer aux critères du ministère de l'administration territoriale. Des organisations qui ont dénoncé ces mesures et qui ont déclaré qu'elles ne se sentaient pas concernées par ces décisions. Écoutez, Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, rappelle que les partis doivent se mettre en conformité avec la loi sous peine d'être dissous.
Il y a des dispositions qui sont prévues par la charte des partis politiques qui a été adoptée en décembre 91. Cette charte prévoit les dispositions de sanctions éventuellement, et ces sanctions vont à la suspension temporaire, à la radiation, c'est-à-dire au retrait de l'agrément. Et je pense que c'est ce qu'encourent au maximum les partis politiques qui veulent agir à marge des règles établies par la République. Donc nous les encourageons vivement à prendre les dispositions nécessaires et à profiter du temps imparti pour dérouler des actions qui vont les permettre de se mettre en conformité par rapport aux exigences de la loi que l'administration du territoire essaie d'appliquer. C'est les grandes formations politiques. Historiquement, elles devraient être plus avisées. Je pense que les dirigeants doivent entendre raison pour éviter leur dissolution, parce que ce serait une catastrophe pour le pays, parce que ces partis sont porteurs d'une histoire légitime ici. Et je pense qu'ils sont en l'obligation, les dirigeants actuels, de laisser ces partis comme un patrimoine dans le paysage politique de notre pays et ne pas accélérer leur dissolution en se mettant en position de défiance par rapport aux institutions de la République.
Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen, il était interrogé par Mukhtar Ba. La Guinée, où on parlait de lui il y a un instant, Seydou d'Alain Diallo, a été convoqué par la CRIEF en vue de son inculpation pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée. Vous retrouvez plus de détails sur cette future inculpation sur RFI.fr.
Au Mali, 9 militants de l'imam Diko Koron comparaissaient devant un tribunal ce jeudi.
Ils avaient été interpellés puis emprisonnés le 14 février dernier, jour annoncé comme celui du grand retour à Bamako de Mahmoud Diko, bête noire des autorités maliennes de transition et depuis plus d'un an en exil en Algérie. Le retour au pays annoncé avait finalement été annulé, ce qui n'avait pas empêché les forces de l'ordre d'arrêter 9 des sympathisants de l'imam sortis de chez eux pour l'occasion. Plus de détails avec David Baché.
Les soutiens de l'imam Diko expliquent être sortis du procès soulagés, même si le jugement ne sera rendu que la semaine prochaine. Les 9 militants à la barre sont poursuivis pour attroupement illégal. Leur avocat a plaidé la relaxe, expliquant que les soutiens de l'imam Diko, qui avaient appelé à venir accueillir l'imam à l'aéroport, avaient prévenu le gouvernorat de Bamako et n'avaient reçu aucune réponse, aucune notification de cette interdiction, qui n'a pas non plus fait l'objet de communication publique. Quant au procureur, il a lui-même demandé la relaxe pour 4 des accusés, qui ont assuré être sortis ce jour-là par curiosité. Pour les 5 autres, qui ont reconnu avoir répondu à l'appel des partisans de Mahmoud Diko, le procureur a requis 1 an de prison à leur encontre, avec sursis. Même s'ils étaient condamnés, les 5 hommes seraient donc libérés. Le délibéré a été renvoyé au jeudi 27 mars prochain.
David Baché, au Soudan, le général Al-Bourane contre toute forme de négociation avec les forces de soutien rapide, tant que ces derniers ne rendront pas les armes. Le chef de l'armée régulière, qui a repris la main sur le palais présidentiel hier matin, veut que les paramilitaires se retirent. Nous n'avons ni mot ni paix pour eux tant qu'ils sèment la peur au quotidien, ajoute Abdel Fattah Al-Bourane. Alors que le conflit entrera bientôt dans sa 3e année de guerre, ce sera le 15 avril prochain.
En Tunisie, un 5e premier ministre en 4 ans.
Et c'est une première ministre qui succède à Kamel Madouri, remerciée sans raison aux officiels dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est donc Sarah Zafrani Zenzri, ministre de l'équipement, qui a pris son poste dans la foulée. Le président Kais Saied, dans un discours de remaniement, a insisté sur la nécessité de mieux coordonner le travail gouvernemental et de chercher à dépasser les obstacles pour réaliser les attentes du peuple tunisien. Pour d'autres, il ne s'agit que d'excuses pour changer d'exécutant. C'est en tout cas l'avis ce matin d'Atem Nafti, écrivain et analyste politique tunisien.
On est dans un régime hyper présidentiel où le Premier ministre n'est là que une sorte d'adjoint ou de chef d'équipe. Les premiers ministres, c'est pas des personnalités de premier plan, c'est pas des hommes politiques avec une carrière derrière eux, donc c'est juste des technocrates qui sont là pour exécuter les ordres du président. C'est un poste d'exécutant. Il y a un deuxième point qui me semble très très important à souligner, c'est que le régime de Kais Saied repose notamment sur la théorie du complot et la recherche permanente de boucs émissaires. Le discours qu'il a tenu laissait entendre que le Premier ministre a cédé à certains comploteurs contre la Tunisie. Donc là, il va juste le sacrifier pour expliquer que c'est un énième agent du complot. Donc on est toujours dans ce narratif où il y a un complot avec à chaque fois des boucs émissaires qui permettent de justifier que la situation économique ne s'est pas améliorée, etc., etc.
Atem Nafti, écrivain et analyste politique tunisien. Ses propos étaient recueillis par Weli Diallo. Au Ghana, l'un des principaux marchés de plein air du pays, détruit hier vendredi dans un incendie. Cela s'est passé à Kumasi, deuxième plus grande ville du pays. Et si les causes du drame ne sont pas encore connues, cet événement rappelle forcément un autre incendie survenu en janvier à Accra, celui du marché de Kantamanto, l'un des plus grands lieux de vente de fripes d'Afrique de l'Ouest. Un événement qui relance encore une fois la question des mesures de sécurité contre les incendies dans ces marchés bondés. Le point depuis Accra avec notre correspondant Victor Cariou.
Plus de 4000 mètres carrés de commerce détruits, des dizaines d'échoppes parties en fumée et des pertes qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de cédis. Voici le bilan provisoire de l'incendie survenu vendredi matin au marché d'Adoum, en plein centre du quartier d'affaires de Koumassi. Maîtrisé après 5 heures d'intervention, cet incendie a été très compliqué à éteindre selon le Service national des pompiers du Ghana. Contacté par RFI, leur porte-parole fait notamment état de grandes difficultés à circuler dans les allées étroites et encombrées du marché. Si une enquête doit encore déterminer les causes du drame, cette situation rappelle grandement l'incendie en janvier du marché de Kantamanto à Accra, poursuit le porte-parole des pompiers. Il relève notamment l'absence totale de normes de sécurité incendie dans ces deux marchés de plein air dédiés en grande partie à la vente de vêtements de seconde main. Ce vendredi, en fin d'après-midi, le président John Dramani Mahama s'est rendu dans les ruines du marché d'Adoum à la rencontre des victimes de l'incendie. Face à une foule dénonçant l'absence de moyens pour lutter efficacement contre ces incendies, le président a assuré que son gouvernement ferait tout pour aider les commerçants à reconstruire le marché. Victor Cariou, Accra, RFI.
Enfin, Nemo, le dossier de ce journal en Côte d'Ivoire.
Où était mis à l'honneur ce vendredi des figures héroïques ouest-africaines de l'ère précoloniale, dont la mémoire s'est quelque peu estompée avec le temps. Dans son spectacle Les voix des héroïnes africaines, la conteuse Floppy Mendoza, accompagnée par 4 danseuses, raconte leurs histoires. Reportage Marine Janin.
Pour son spectacle, la conteuse ivoirienne Floppy Mendoza invoque les figures de 3 reines africaines à la destinée remarquable, dont l'histoire qui s'est perpétuée par les contes et les légendes est aujourd'hui menacée.
Le conteur, il est mieux placé pour pouvoir raconter ces histoires qui tombent déjà dans les oubliettes. Les enfants naissent, ils vont entendre parler de Batman, de Superman et tout. Si en tant que conteur, nous n'arrivons pas à valoriser nos héros et héroïnes africains, personne ne le fera à notre place. Et moi, étant femme, j'ai été vraiment touchée par les valeurs de ces femmes-là. Tassi Ongbe du Bénin, Yenenga du Burkina Faso et puis Abla Poku de la Côte d'Ivoire.
Construit autour du conte, ce spectacle pluridisciplinaire intègre de la danse, de la musique et du chant. Il commence par l'histoire de Tassi Yangbe qui régna 3 ans au XVIIIe siècle sur le royaume du Dahomey après avoir remplacé au pied levé son frère jumeau, mort à la veille d'une bataille décisive.
Personne ne pouvait imaginer que celui qui était à la tête de cette grande bataille n'était pas un homme, mais une femme. Yangbe devient donc la première reine du Dahomey, innovatrice, audacieuse. Elle s'entoura d'une armée exclusivement féminine, les célèbres Amazon du Dahomey.
Une seule représentation est prévue à Abidjan pour le moment, mais Floppy Mendoza espère pouvoir monter à nouveau son spectacle en Côte d'Ivoire et à l'international pour garder intact ses mythes fondateurs. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et les histoires de ces 3 reines, mi-historiques, mi-légendaires, conservent toute leur pertinence aujourd'hui, souligne Tanela Boni, poétesse, romancière et philosophe ivoirienne. On l'écoute.
Ces 3 mythes fondateurs ont quelque chose en commun, c'est que d'abord, ces mythes concernent des femmes qui ont quelque chose à voir avec le pouvoir politique et aussi avec la domination masculine. Si je prends par exemple le cas de Abla Poku que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, c'est un mythe fondateur, le mythe fondateur du peuple baoulé. Yenenga, le mythe fondateur du peuple Mossi au Burkina Faso. S'agissant de Tassi Yangbe, sa régence n'a duré que 3 ans parce que un de ses frères lui a mis les bâtons dans leurs roues. Ça veut dire que les femmes sont tout à fait capables d'avoir le pouvoir, de diriger un peuple, sauf que prenant le pouvoir, les hommes sont toujours là pour avoir un regard sur le pouvoir des femmes. Les mythes fondateurs nous montre comment les choses n'ont pas beaucoup changé, je veux dire, depuis des siècles et des siècles. Pour la bonne raison que la domination masculine, elle est toujours là.
Tanela Boni avec Marine Janin qui signe le dossier de ce journal.
Merci Nemo en peace.